Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, c'est aujourd'hui le septième dimanche après la Pentecôte. Et la Sainte Église nous rappelle, par les textes liturgiques et les textes du bréviaire qui sont associés à ces textes liturgiques de la messe, l'importance de persévérer. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça ne suffit pas de bien commencer. Il s'agit de persévérer dans la charité jusqu'au moment de la mort. Et seul celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui aura persévéré dans la vertu de charité jusqu'à la mort, pourra être sauvé. Et les textes du bréviaire nous donnent un triste exemple, l'exemple de Salomon, le fils du roi David. Il est monté sur le trône de David, son père, après la mort de David, alors qu'il n'avait que 17 ans. Et le bon Dieu lui avait fait une proposition assez extraordinaire. Il lui avait proposé de lui donner ce qu'il voulait. Et Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu avait répondu à Salomon, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, si bien qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de la richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois ou mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Et c'est vraiment un point à méditer, parce que Salomon, qui avait reçu donc des grâces, des dons de nature et de grâces extraordinaires, eh bien n'a pas persévéré. Il n'a pas écouté ce que le bon Dieu demandait en exigeant que les Israélites n'aillent pas choisir parmi les femmes étrangères des épouses. Et Salomon, malgré sa sagesse, malgré ce don de sagesse qu'il avait reçu du bon Dieu, est allé choisir des épouses étrangères qui lui ont perverti le cœur. Et cette perversion du cœur provoquée par ces épouses étrangères ont amené Salomon à l'infidélité. Et les pères de l'Église sont très inquiets du salut de Salomon à cause de ça. Je crois que cet exemple que Salomon nous donne, ce mauvais exemple, de nous faire réfléchir. Moi aussi, je reçois du bon Dieu tous les jours, par la messe, par la prière, par les confessions, je reçois la sagesse du bon Dieu. Mais il s'agit que cette sagesse m'aide à persévérer jusqu'à la fin. Alors il faut savoir qu'il y a autour de nous des ennemis qui cherchent à nous nuire. C'est ce que demande l'oraison du jour. Écartez, Seigneur, tout ce qui peut nous nuire et accordez-nous tout ce qui doit nous servir. Nous avons autour de nous des gens qui cherchent à nous nuire, à nous empêcher de monter vers le bon Dieu. L'évangile du jour, tiré de saint Matthieu, chapitre 7, nous parle à cause de ça des faux prophètes. Les faux prophètes nous donnent deux points importants. Les faux prophètes d'abord, et ensuite, les arbres qui donnent des mauvais fruits. C'est un peu la même chose. Les faux prophètes donnent des mauvais fruits, et les arbres mauvais donnent aussi des mauvais fruits. Voilà ce que dit le texte sacré. Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et au-dedans sont des loups ravisseurs. » Donc, qui sont ces faux prophètes et quelles sont ces fausses prophéties? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut nous méfier de ces faux prophètes. Et les prophètes sont d'autant plus dangereux qu'ils prétendent parler au nom du bon Dieu. Les faux prophètes sont d'autant plus dangereux qu'ils agissent dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pape Saint-Pie X qui, en 1907, dans sa condamnation du modernisme, parlait justement du danger des modernistes qui agissaient à l'intérieur même de l'Église et qui savaient, étant à l'intérieur, très bien où porter leur coup pour détruire tout l'édifice. Alors méfions-nous, mes vieux chefs, pas simplement des faux prophètes, mais méfions-nous des fausses prophéties. Je voudrais, pour vous aider, sortir trois fausses prophéties qu'on entend extrêmement fréquemment aujourd'hui. Et toutes les trois, malheureusement, sont enseignées par la fraternité Saint-Pie X, hélas. La première fausse prophétie, c'est celle qui essaie de nous faire croire que l'Église de Vatican II et l'Église catholique sont une seule et même Église. Alors que l'Église de Vatican II est une Église centrée sur l'homme, pour aider l'homme à bien se sentir ici-bas sur la terre, et que l'Église catholique, au contraire, est une Église centrée sur Dieu. Donc l'Église de Vatican II, centrée sur l'homme, homocentrique, n'a plus rien à voir avec l'Église catholique centrée sur Dieu. Donc de faire croire aux gens, de laisser les gens croire que l'Église catholique et l'Église de Vatican II sont une seule et même Église, c'est certainement la meilleure manière d'amener les gens à l'apostasie générale. La deuxième fausse prophétie, le deuxième faux enseignement hérétique, qu'on entend également très très souvent, même dans la tradition, c'est de nous faire croire que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire, et qu'il n'est pas infaillible dans son magistère ordinaire, et que donc nous n'avons à suivre le pape infailliblement que une fois tous les 150 ans quand il exerce son magistère extraordinaire, ce qui est assez rare. Alors qu'en fait l'Église catholique dans Vatican I, en 1870 sous le pape Pie IX, enseigne expressément que le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire bien sûr, mais aussi dans son magistère ordinaire quand il parle sur la foi et les mœurs. Soit quand le pape parle de façon personnelle dans son magistère pontifical, soit quand il parle avec tous les évêques unis à lui dans son magistère universel. Donc dans ces quatre cas, le pape est infaillible, il ne faut pas oublier ça, le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire quand il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église, soit dans son magistère pontifical ordinaire, soit dans son magistère pontifical extraordinaire, soit dans son magistère universel ordinaire, soit dans son magistère universel extraordinaire. Et donc, méfions-nous, eh bien, chers frères, de ces fausses prophéties, de ces faux enseignements donnés par des faux prophètes, c'est-à-dire par des prêtres, des évêques, qui au lieu de donner à leurs fidèles la bonne nourriture donne du poison. La troisième fausse doctrine qui se répand malheureusement partout aujourd'hui dans le monde de la tradition, et je voudrais vous mettre en garde également contre cette troisième fausse doctrine, c'est de nous faire croire que les nouveaux sacrements de l'Église de Vatican II sont aussi valides que les sacrements de l'Église catholique traditionnelle. Il y a malheureusement depuis déjà plusieurs mois dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie X des changements très inquiétants. Et on voit maintenant des prêtres de la fraternité Saint-Pie X qui prétendent qu'il n'y a plus besoin de refaire confirmer par exemple sous condition des fidèles qui ont été confirmés après 71 dans l'Église de Vatican II avec le nouveau sacrement de la confirmation. Alors que Mgr Lefebvre reconfirmait sous condition. Pire que ça. On voit maintenant de plus en plus fréquemment des prêtres, on entend des prêtres de la fraternité Saint-Pie qui prétendent que le nouveau sacrement de l'ordre, le nouvel épiscopat aussi institué après 1968, c'est en 1968 que l'Église de Vatican II a commencé à s'aborder l'ordre et l'épiscopat, beaucoup prétendent que ces sacrements sont parfaitement valides. Alors, encore une fois, que Monseigneur Lefebvre, Lefebvre lui-même, acceptait de réordonner sous condition les prêtres qui avaient été ordonnés avec un nouveau rite et qui voulaient travailler avec la fraternité Saint-Pilice. Tout cela, c'est maintenant terminé. Ce qui fait que le démon, si vous voulez, a une porte ouverte maintenant dans les âmes et rentre dans les âmes, d'abord par la première erreur qui consiste à croire que l'église de Vatican II et l'église catholique sont une seule et même église, puis par la deuxième erreur qui consiste à croire que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire, et enfin, troisième erreur, qui consiste à faire croire que les nouveaux sacrements, notamment le sacrement de confirmation et le sacrement de l'ordre et de l'épiscopat, et la confirmation du sacrement de l'ordre qui est l'épiscopat, ces nouveaux sacrements sont valides. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet évangile, nous dit de nous méfier, que ces gens sont devenus des loups ravisseurs et qui viennent à nous sous des vêtements de brebis pour nous tromper. Et c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je viens de vous donner trois de ces fruits, qui sont des fruits de mort, mes chers frères. Ce ne sont pas des simples erreurs théologiques, ce sont des fruits de mort, c'est-à-dire des fruits qui tuent les âmes. Pour utiliser d'autres termes, ce sont des fruits qui envoient les âmes en enfer. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit notre Seigneur. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou aux chardons des figues? Ainsi, toute bonne âme donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans l'épître d'aujourd'hui, tiré de l'épître de Saint Paul aux Romains, on a la même doctrine. C'est pour cela que l'Église catholique a choisi cette épître justement pour être établie en parallèle avec l'évangile de Saint Matthieu chapitre 7. Voilà ce que dit Saint Paul. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors de choses dont maintenant vous rougissez? Car raison pour fin la mort. Saint Paul dit que ces fruits sont des fruits de mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, le fruit que vous en tirez, votre sanctification et la fin sera la vie éternelle. Car la mort est la solde du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu. Donc, mes bien chers frères, il nous faut, encore une fois, juger l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de notre vie spirituelle? Quels sont les fruits de notre vie spirituelle sur l'âme de nos enfants? Quels sont les fruits de nos confessions, de nos communions sur nos âmes? Quels sont les fruits pour nous de l'utilisation régulière de la Sainte Messe, de la Sainte Confession? Est-ce que mon âme donne des fruits de vie ou des fruits de mort? Est-ce que je progresse dans ma foi? Ou est-ce qu'au contraire, je me laisse aller de plus en plus sur la pente qui m'éloigne du bon Dieu, entre autres en acceptant de suivre ces faux prophètes, ces faux enseignements, ces fausses doctrines, fruits mortels de Vatican II? Comme il est important, mes bien chers frères, de comprendre ces choses-là et de les mettre en pratique. L'évangile d'aujourd'hui se termine par un avertissement aussi qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui qui suit la volonté du Père, c'est la volonté aussi de l'Église, l'enseignement traditionnel de l'Église. L'enseignement traditionnel de l'Église sur le pape, l'enseignement traditionnel de l'Église sur l'autorité du pape, plus que jamais, surtout aujourd'hui où hélas nous sommes dans une situation où nous sommes orphelins d'autorité, nous avons besoin de garder fidèlement l'enseignement du pape. Nous devons croire de toutes les forces de notre âme qu'un pape a pour but de garder le dépôt de la foi. Qu'il est sur terre pour garder intact le dépôt de la foi. qui ne lui appartient pas, parce que ce dépôt est clos à la mort du dernier des apôtres, à savoir Saint Jean. Et que donc je dois protéger mon âme, je dois protéger l'âme de mes enfants, de ces nouvelles idées de mort, qui consistent à nous faire croire justement que le pape doit s'adapter au monde moderne. Rappelez-vous la dernière condamnation en 1864 par le pape Pie IX dans le texte du syllabus, justement, de le pape condamne cette idée qui consiste à dire que le pape doit s'adapter au libéralisme, au progrès du monde moderne. Non, mais bien, chers frères, le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est successeur de Saint-Pierre, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, pour garder le dépôt de la foi dans nos âmes. Alors je vous en supplie, n'écoutez pas les prêtres et les évêques modernes qui vous disent que le pape n'est infaillible que une fois tous les 150 ans, encore une fois, quand il enseigne dans son magistère extraordinaire seulement. Ne croyez pas ceux qui vous disent, encore une fois, que l'Église catholique et l'Église de Vatican II, c'est une seule et même Église. Et ne croyez pas, je vous en supplie, ceux qui vous racontent que la nouvelle confirmation, que le nouveau sacrement de l'ordre, le nouvel épiscopat, pour ne pas dire aussi ce que disent beaucoup de gens, que la nouvelle messe, sont aussi bonnes, aussi valables que les sacrements traditionnels de l'Église catholique. Qu'au moins les choses soient claires. Un disciple de Luther, qui s'appelait Melanchthon, avait bien vu ça. C'était un bandit. Il avait sa vieille maman qui était catholique. Vous connaissez l'histoire que j'ai souvent citée. Mais je vous la recite parce que je pense qu'elle s'applique parfaitement à ce que j'essaie de vous faire comprendre dans ce sermon. La vieille maman de Melanchthon lui demandait de ces deux religions qui actuellement en présence, la catholique et la protestante, laquelle est la meilleure ? Et Melanchthon, avec finesse, avait répondu, pour vivre, il vaut mieux la protestante. Et pour mourir, la catholique est préférable. Eh bien, c'est exactement la même chose, mes bien chers frères. Dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a deux religions en présence. La religion de Vatican I, avec ses pompes et ses œuvres, fondée sur les trois principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité, les trois principes révolutionnaires et laïques du monde moderne, la religion de Vatican I et la religion catholique, une sainte catholique et apostolique. Laquelle de ces deux religions est la meilleure? Eh bien, je crois qu'on peut donner la même réponse. Pour vivre, certainement, la religion la plus facile, c'est la religion de Vatican II. Mais pour mourir, la meilleure de ces deux religions, c'est la religion catholique. Alors, mes bien chers frères, si vous voulez mourir dans la religion catholique, vivez dans la religion catholique. Car si vous prétendez vouloir mourir dans la religion catholique, mais que vous vivez selon les principes d'une fausse religion, vous exposez à mourir dans une fausse religion. Si vous suivez les principes mortifère de liberté, d'égalité, de fraternité, si vous prétendez que la religion de Vatican II est l'égale de la religion catholique, eh bien, chers frères, vous allez tout perdre. Parce que vous allez verser dans l'âme de vos enfants le poison à grosse dose. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des dieux, des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père. La volonté de notre Père, c'est quoi? La volonté de notre Père, mes chers frères, c'est que nous sauvions notre âme. Est-ce qu'on peut sauver notre âme avec une autre église que l'église catholique? C'est impossible, parce que hors de l'église catholique, il ne peut pas y avoir de salut. Donc nous devons fidèlement rester dans la ligne qui a été tracée par l'église catholique pendant 20 siècles. Et en aucune façon avoir quoi que ce soit à faire avec cette religion du monde moderne qui est la religion de Vatican II. Alors, au lieu de Bergoglio et de ses petits amis, suivez Saint Pie V, suivez Saint Pédis, suivez tous les papes jusqu'au pape Pie XII qui ont agi comme gardien du dépôt de la foi, afin que vous puissiez justement protéger dans vos âmes et dans les âmes de vos enfants, cette foi catholique est absolument nécessaire. Et n'oubliez pas, mes bien chers frères, encore une fois, qu'il faut toujours passer par la Sainte Vierge pour conserver la foi. Celle qui nous aide à conserver la foi, c'est la très sainte Vierge Marie. Et si on peut dire « corps de la foi catholique et pas de salut », on peut aussi dire que sans utiliser la très sainte Vierge Marie, il n'y a aucun moyen d'arriver à la croix qui sanctifie, à la croix de l'Église catholique. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de conserver en nos cœurs un grand, grand amour de son divin Fils et de son Église qu'il a fondée, hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en Christ soit-il.